Alors, la dernière fois, on a vu comment le mal est entré dans le monde, comment le mal s'est introduit sur la terre, et on a vu comment Adam et Ève ont été pris dans ce qu'on appelle le péché, par conséquent toute l'humanité avec. Et j'aimerais aujourd'hui prendre avec vous quelques textes pour définir le péché, c'est-à-dire définir notre problème. Quel est notre problème? Ça sert à rien de regarder le remède avant de savoir exactement de quel mal nous sommes atteints. Le mal, c'est le péché. Qu'est-ce que le péché? Alors, je vous propose de regarder un premier texte dans l'épître de Jean, dans la première épître de Jean, chapitre 3, où il y a là une définition qui nous est donnée du péché. Dans 1 Jean chapitre 3, on va lire le verset 4.
Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi.
Le péché est la transgression de la loi. Maintenant, je vais vous relire le texte, parce que dans la traduction que nous avons, il manque un mot, qui n'a pas été mis là par les traducteurs en général, par les traducteurs français en général, mais qui se trouve dans une version en français et dans les versions en anglais. Je vais vous le relire avec ce mot-là, qui manque, et vous allez voir qu'il y a une grande différence. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse aussi la loi, et le péché est la transgression de la loi. Transgresse aussi la loi. Quelle différence est-ce que ça fait d'avoir là le mot aussi?
C'est qu'il y a autre chose.
Voilà. La différence, c'est qu'il y a autre chose. Le texte qui nous dit, celui qui pratique le péché transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi, n'est qu'une partie du problème. Il y a donc autre chose. Donc on apprend dans ce texte, en particulier, que le péché est, entre autres, la transgression de la loi, la désobéissance, si vous voulez. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans l'histoire du Jardin d'Éden, où Adam et Ève, en désobéissant, ont commis le péché. Il y a autre chose qui s'est passée et qui rentre dans le cadre du péché. Pour ça, on va regarder un autre texte dans Ésaïe 59. On a là une dimension différente du péché. Ésaïe 59, versets 1 et 2.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Merci. Vous avez remarqué ici, le péché est présenté comme quoi?
Séparation.
Une séparation. Le péché est une séparation. Et ça, c'est le morceau qui manquait au texte de tout à l'heure et qui rentre dans le aussi qu'il y avait dans notre texte. Le péché, c'est la désobéissance. C'est la transgression de la loi. C'est aussi et d'abord une séparation, une cassure, une coupure entre nous et Dieu. C'est ça le péché. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que ça donne à cette notion de péché une dimension beaucoup plus grande. Si pour moi, le péché, c'est simplement une désobéissance, il suffit que je ne fasse pas le mal pour faire le bien. Et ce n'est pas biblique. Le péché, c'est plus que ça. Même si nous ne faisons pas ce qui est mal, nous nous rendons compte que le mal est en nous quand même. Le péché va plus loin que simplement ne pas obéir ou que simplement ne pas faire le mal. Je ne fais pas le bien en ne faisant pas le mal. Par conséquent, si je veux une solution au problème du péché, ce ne sera pas suffisant d'obéir. Il faudra reconstruire la relation cassée. Ce n'est pas en faisant le bien qu'on rétablit la relation. Ce n'est pas suffisant. Alors, d'où ça vient? Regardez un texte dans l'épître de Jacques. C'est un texte qui nous met en face de notre responsabilité. On cherche toujours, comme Adam et Ève, à remettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15.
Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort.
Merci. On a là le processus. Et le texte nous dit, n'essayez pas de remettre la faute de votre choix personnel sur quelqu'un d'autre ou sur Dieu. Lorsque quelqu'un est tenté, il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Derrière la tentation, il y a une situation par laquelle j'essaye, contre la loi de Dieu, de m'apporter un bénéfice à moi. Le regard de Dieu sur moi me dit « voilà où je suis ». Après, j'irai chercher dans le même livre ce que Dieu me dit pour en sortir. Et il me dit « tu veux ou tu veux pas ?» Seulement, je ne peux pas choisir avant de savoir exactement où je vais et quelles sont les implications d'un côté et de l'autre. Plus on s'approche de Dieu, plus on apprend à le connaître et à l'aimer, plus on se rend compte combien on est loin de cet idéal qu'il nous donne. Et plus on réalise qu'on a besoin de sa présence pour être reconstruit à son image. On a lu un texte dans Isaïe qui disait « Le péché, qu'est-ce que c'est ? C'est une séparation entre nous et Dieu. » On va regarder un texte équivalent dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire les versets 12 et 13.
« En ce temps-là, vous étiez sans merci. » Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étranger aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, votre union avec le Christ, Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ.
Autrefois, vous étiez sans espérance, sans Dieu, sans alliance, sans Christ. Rien. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez éloignés, vous êtes rapprochés. C'est cette même idée. Vous étiez autrefois séparés. Vous étiez coupés. Vous étiez, autrement dit, dans le péché. Mais maintenant, ce problème a été résolu grâce à Jésus. C'est la même notion. Si le péché, c'est d'abord une séparation, la solution au péché sera de reconstruire cette relation-là. J'aimerais regarder maintenant les conséquences du péché, pour qu'on soit au clair. Romains chapitre 3, Épître aux Romains chapitre 3, versets 10, 11 et 12.
Il est écrit, il n'y a point de juste, pas un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Et un petit peu plus loin, le verset 23.
Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Voilà, le bilan est simple. Il n'y a pas un. Parce qu'on est tous des descendants d'Adam et Ève, on a tous été engendrés à la ressemblance d'Adam après le péché. On est tous contaminés par le péché. On est donc tous des pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Déjà là, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que la Bible ne fait pas de différence ici entre celui qui fait un petit peu plus de bien que l'autre. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20. C'est juste un autre texte, cette fois-ci dans l'Ancien Testament, pour souligner la même vérité.
Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.
C'est clair? Il y a une séparation incontestable. Mais Dieu est à notre recherche. Si nous allons à sa rencontre, mais c'est formidable. Mon souci, c'est que nous prenions conscience de l'état où nous sommes réellement aux yeux de Dieu. Parce que c'est seulement le regard de Dieu sur moi qui m'intéresse. Ce n'est pas le regard des autres ou ni même le mien. Ce qui m'intéresse et qui est vérité, c'est le regard de Dieu sur moi. Et ce qui est tout aussi vérité, c'est le moyen que Dieu me donne pour résoudre ce problème-là. Parce que je peux fermer les yeux sur la réalité. Ça va aussi m'empêcher de trouver la solution. Je reviens aux conséquences du péché. On a vu ce texte déjà, mais on va le regarder de nouveau pour souligner l'ampleur du dégât. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17.
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Merci. Le texte est beaucoup plus fort que ça. Je vous l'avais mentionné la dernière fois, le texte dit, Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort, littéralement. De la mort définitive. On a la même chose dans Romains 6. Le texte que l'on connaît bien, Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23.
En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Merci. Nous sommes, autrement dit, tous des condamnés à mort en sursis. Si nous ne faisons rien, nous mourrons de cette mort-là. Voilà ce que la Bible nous dit. J'aimerais maintenant vous montrer une distinction à faire dans la notion de péché entre le péché et les péchés. C'est une distinction importante. Je la fais maintenant parce que nous allons en avoir besoin un petit peu plus tard pour comprendre comment Dieu résout ce problème-là. Le péché. Regardez maintenant un autre passage dans Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul ici va décrire la situation relative au péché singulier. Romains 7, à partir du verset 15.
En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire que je ne suis pas par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée.
Merci. Il est question ici d'une loi. Si je prends ça et que je le lâche, est-ce qu'il va aller au plafond ou sur la table? Comment vous le savez? L'apôtre Paul dit ici, le péché pour moi est une loi. C'est-à-dire, comme il le dit au verset 18, j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien. Il est question ici du péché au singulier. Il veut en sortir, il veut faire le bien, il n'en a pas les moyens. Parce que, comme le disait la version qu'on a lue tout à l'heure, c'est contre sa nature. Notre nature a été altérée par le péché. C'est comme une maladie qui nous a atteints, dont nous sommes tous malades. Et l'apôtre Paul ici fait cet aveu d'échec. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ça, c'est le péché. Je définis le péché comme étant cette maladie qui est en moi et qui va produire les péchés. Regardez maintenant quelques textes concernant les péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 27 et 28.
Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. »
Merci. C'est ici la Sainte Cène, et Jésus reprend les éléments de la Pâque pour offrir le symbole de son sacrifice pour le pardon des péchés, des fautes que nous avons commises. On va regarder un autre texte, Colossiens 3, 5 à 8.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vit sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
Merci. Vous avez une liste des noms, la cupidité, les passions, l'impureté, la débauche. Ça, ce sont les péchés. Il y a une différence à faire entre le péché qui est une maladie et les péchés qui sont les actions mauvaises que je commets comme conséquence de la maladie qui est en moi. la maladie, elle ne va pas nécessairement se voir. Mais je vais avoir des symptômes, des boutons qui vont me sortir sur la figure. Si je ne soigne que les symptômes, je n'ai pas guéri la maladie. Si maintenant vous appliquez ça à ce dont nous parlons, j'ai deux problèmes. J'ai le péché, la maladie, et les péchés, les mauvaises actions. Si j'arrivais même à enlever toutes les mauvaises actions, je serais encore un pécheur et je n'aurais pas résolu le problème numéro un, le péché. Quelqu'un donc qui ne commet pas de mauvaises actions, qui ne commet pas des péchés, est encore un pécheur. Voilà la situation dans laquelle on est. Même en faisant beaucoup de bien ou en ne faisant aucun mal, je suis encore un pécheur. J'aimerais vous donner une illustration dans les Écritures pour vous montrer à quel point nous sommes tentés d'apporter à ce problème une solution totalement opposée à celle que Dieu a apportée. Regardez maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 11 nous rapporte l'histoire de la tour de Babel. Et la tour de Babel se situe après le déluge. Les hommes n'ont pas été meilleurs qu'avant et ils se sont rebellés contre Dieu de la même manière. Et cette rébellion va se manifester verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » À la sortie du déluge, les hommes se comprennent que quand Dieu intervient, ils sont en danger. Et ils se disent, nous on va se mettre à l'abri. Si ça lui reprend de nous faire un déluge, nous on monte en haut de notre tour et on est en sécurité. Ils construisent eux-mêmes le moyen d'échapper à Dieu et de monter jusqu'à Dieu. Ils montent jusqu'au ciel. Ça vous rappelle ce que Satan avait dit, vous serez comme Dieu. Maintenant, regardez dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un homme. » Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le plan que les hommes ont pour se sortir d'affaires, c'est de monter jusqu'au ciel. Le plan que Dieu a pour sauver l'humanité, c'est de descendre du ciel jusque sur la terre pour sauver les hommes dans leur misère. C'est dire à quel point notre instinct naturel de défense et le plan de Dieu pour nous sauver sont fondamentalement opposés l'un à l'autre. Dieu nous propose de renoncer à notre plan instinctif et de prendre le sien. C'est dire que son plan risque de nous prendre à rebrousse-poil par rapport à nos désirs, à nos envies, à nos projets à nous. Juste un ou deux textes avant de terminer, on peut se poser la question, cette histoire du péché, elle dure depuis maintenant 6000 ans et plus, selon les indications bibliques. Pourquoi est-ce que Dieu tarde tant pour intervenir? La Bible nous le dit. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, le verset 9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.
Merci. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas plus vite? C'est pour que nous ayons tous l'occasion d'apprendre à connaître son plan, à le connaître lui, d'avoir l'occasion de reconstruire cette relation qui a été cassée, de sorte que nous puissions être sauvés. Si Dieu attend, c'est parce que Dieu est patient. Il veut que nous parvenions tous à la repentance. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à penser au moment où Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. Et il y a plein de gens qui venaient à lui pour être baptisés. Et un jour, Jean-Baptiste voit dans la foule Jésus. Il va le présenter à tout le monde. Comment est-ce que Jean-Baptiste va présenter Jésus à tous ceux qui sont là? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il parle à des Juifs qui comprennent très bien ce que veut dire agneau. Pour eux, l'agneau, c'est l'animal qui est sacrifié au temple. Jean-Baptiste est en train de dire, celui qui va ôter le péché du monde, eh bien c'est lui qui va faire le sacrifice. Sans qu'on ait étudié les éléments de ce plan encore comme il faut, on peut comprendre déjà au départ que Jésus est l'élément clé par lequel ce problème du péché et des péchés va être résolu. Si au départ, le péché a été la rupture de la relation entre l'humanité et Jésus, la solution va être de reconstruire la relation entre lui et moi. C'est de cette manière-là que le péché va être détruit dans ma vie. Notre Dieu, notre Père, en ouvrant ta parole aujourd'hui, nous découvrons que, malgré notre situation désespérée, ton amour vient jusqu'à nous pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous donner un espoir, une espérance, pour nous donner un avenir. Tu nous dis dans ta parole que tu as pour nous des plans pour notre avenir, pour notre bien et pour notre vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas laissé dans cette misère qui est la nôtre, mais que tu as pourvu toi-même une solution par laquelle nous pouvons savoir que la vie éternelle nous est acquise. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles, des cœurs sages, intelligents, pour comprendre ton amour et pour le recevoir. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.